Les informations, Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. Une élection interne, mais qui pèsera lourd dans la recomposition du paysage politique français. Les 235 000 adhérents du parti Les Républicains élisent leur nouveau président à partir de ce soir 20h et jusqu'à demain même heure. Le vote se fait sur Internet ou dans un des 250 bureaux de vote. Il y a trois candidats, Florence Portelli, Maëlle Decalan et Laurent Wauquiez, qui espèrent, il faut bien le dire, l'emporter dès le premier tour demain soir. Tour d'horizon des enjeux pour la droite française et bien au-delà avec la politologue Virginie Martin.
D'une part, quelle va être la ligne idéologique véritablement à terme des Républicains et quelle va être vraiment son incarnation d'opposition par rapport au gouvernement actuel. Est-ce qu'on se rend encore dans une collaboration constructive ou dans une véritable incarnation d'opposition? Parce que tout de même, il va falloir clarifier à terme ce paysage électoral en fait que En Marche est venu excessivement brouillé depuis quelques mois. Donc forcément, il va falloir éclaircir. Éclaircir pourquoi? Pour les enjeux et les scrutins suivants. C'est ça qui va être véritablement le défi de cette nouvelle présidence. Le problème tout de même, c'est que voilà, quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui est relativement favori quand même, représente un courant plutôt droitier des Républicains. Donc, est-ce que là, il va y avoir possibilité de rassemblement?
La politologue spécialiste de la droite française, Virginie Martin, était interrogée par Fanette Hourt. Et puisqu'on parle de recomposition de notre échiquier politique, eh bien, ça se joue aussi au centre ce week-end avec cette réunification historique des deux branches du mouvement radical français. Les Valoisiens et les radicaux de gauche se retrouvent après 45 années tout de même de schisme. Un ancien patron du CAC 40 mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste. C'est Bruno Lafont, ex-PDG du cimentier Lafarge, qui n'échappe donc pas à l'enquête sur ses pots de vin, plus de 400 000 euros versés par l'entreprise française au groupe État islamique pour pouvoir continuer à faire des affaires dans la Syrie en guerre. Bruno Lafont est le sixième dirigeant de Lafarge poursuivi dans cette affaire hors norme. La journée de la colère bien au-delà du Proche-Orient. Hier en Tunisie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre la décision de Donald Trump mercredi de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Un accro sans précédent aux résolutions de l'ONU sur la paix dans la région. Un accro qui ravive les plaies du conflit israélo-palestinien dans tout le monde arabe. Reportage donc à Tunis avec Maureen Mercier.
Vive la Palestine !
Il y a des causes qui fédèrent. Des dizaines de milliers de Tunisiens rassemblés sur l'avenue Bourguiba en plein cœur de Tunis. Des images qui rappellent celles de 2011. Selon les manifestants, dont ce fonctionnaire, autant de monde, c'est du jamais vu depuis la Révolution.
Je suis très heureux de voir l'avenue comme ça. La dernière fois comme ça, c'était contre Ben Ali.
De la gauche laïque aux islamistes, tous unis contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous sommes tous palestiniens, crient les manifestants. Quelques drapeaux américains sont brûlés, mais la manifestation se déroule sans heurts. Si cette femme manifeste, elle l'affirme, comme tant d'autres d'ailleurs, c'est pour prôner la paix.
Stop pour la guerre, stop pour le sang. La terre n'a pas besoin de sang pour donner des fleurs. On a besoin de la paix.
Ça ne concerne pas seulement les musulmans, ça concerne les musulmans, les chrétiens, les juifs aussi. Il y a des gens juifs qui sont honnêtes, qui libres et qui luttent pour la liberté.
Trump, il est en train d'appliquer la loi de la jungle. C'est ça le terrorisme. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes. Trump, il est terroriste en violant la légalité internationale.
Un imposant dispositif de sécurité a été déployé. Les autorités ont laissé la manifestation se dérouler malgré l'état d'urgence, toujours en vigueur depuis la vague d'attentats de 2015. Dans d'autres villes du pays, des milliers de Tunisiens se sont aussi mobilisés. L'ambassade américaine, elle, a préféré hier rester fermée.
Maureen Mercier en Tunisie. Le calme est revenu cette fois dans la soirée. Hier en Cisjordanie et dans la bande de Gaza où les affrontements entre manifestants et soldats israéliens ont fait 2 morts et des dizaines de blessés côté palestinien. Et pendant ce temps, Donald Trump s'emploie sur un autre front. Il déclarait hier soir l'état d'urgence pour le sud de la Californie, région ravagée depuis 5 jours par des feux de forêt. Le vent violent qui devrait souffler tout le week-end complique encore le travail des 8700 pompiers américains déployés. Plus de 212 000 Californiens ont déjà dû quitter leur domicile face à l'avancée des flammes. Nous partons à présent à Moscou, au théâtre du Bolchoï, où l'on donnait hier soir la générale d'un spectacle particulièrement attendu, un ballet consacré à Rodolphe Nureyev, génie de la danse russe, dissidents sous l'URSS et homosexuels revendiqués. C'est la première fois que la Russie rend hommage à son grand homme, mais le spectacle dérange. Plusieurs représentations annulées cet été et le metteur en scène Kirill Serebrennikov assigné à résidence par la justice, officiellement pour des soupçons de détournement de fonds publics. À Moscou pour France Culture, un reportage de Claude Bruyot.
Quand les ballerines s'élancent sur la grande scène du Bolchoï devant les caméras russes et étrangères, l'ombre de Kirill Serebrennikov plane encore dans le théâtre. Une heure avant cette générale très médiatisée, la question de l'absence du metteur en scène assigné à résidence depuis 5 mois n'a cessé d'être posée en conférence de presse. Officiellement, Serebrennikov, qui a droit à 2 heures de sortie par jour, a continué à suivre les travaux de sa troupe. Sous-entendu, il aurait même accompagné les changements intervenus, comme cette photo de Noureyev nu, relégué en arrière-plan, est visible seulement jusqu'à la taille. Dans une Russie où la propagande de l'homosexualité est interdite par la loi depuis 2013, la représentation de cette même homosexualité, celle de Noureyev en l'occurrence, ne serait pourtant plus un problème sur scène. Katia Bernikova, responsable de la communication du Bolchoï.
On n'a pas entendu ça comme un problème à Bolchoï parce que c'est la partie de sa vie, c'est la partie très importante de sa caractère, de sa biographie, et on n'a pas eu aucune difficulté avec tout cela. Au moins, je pense qu'il y a la constitution de l'API où c'est écrit qu'est-ce que tu peux montrer, qu'est-ce que tu ne peux pas montrer. Et si tu ne violais pas la constitution de l'API, quels peuvent être les autres problèmes, en vrai dire.
Le ministère de la Culture a vu le spectacle.
Je ne suis pas au courant parce que ce fois-là, le spectacle va avoir la première, le 9 et le 10, et je ne sais pas s'il arrive ou pas.
On ne saura jamais pourtant qui a eu l'idée de faire porter une combinaison de couleurs chères aux danseurs qui interprètent Noureyev, censé être nu sur scène. Le plus important, dit la direction du Bolchoï, reste que le spectacle existe et que pour la première fois, la Russie reconnaît enfin le génie de Noureyev, l'icône de la danse.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. On termine avec un mot de météo chez nous en France avec un temps globalement dégagé aujourd'hui malgré l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest, les côtes de la Manche. Les températures cet après-midi ne dépasseront pas les 3 degrés sur le Grand Est, 3 également à Paris, jusqu'à 8 degrés tout de même sur le sud-est et les pourtours de la Méditerranée. Merci à Emmanuel Faucillon qui réalisait les journaux de cette matinée à 12h30. Prochaine édition, ce sera avec Anne Fockenberg.